Bienvenue. Aujourd'hui, on parle d'une question qui a l'air très locale à première vue. Si le Québec devenait un pays, quelle monnaie il utiliserait?
C'est ça. On se base sur le fameux livre bleu du Parti québécois.
Exact. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'en tirant ce fil-là, on va dérouler une pelote qui nous amène au cœur d'une transformation mondiale de l'argent.
Absolument. On parle de la dette, du pouvoir. Nos sources pour ça, c'est un peu notre carte au trésor.
On a quoi alors?
On a le plan du PQ, qui est très, disons, classique. Puis on a la critique de Guillaume Desilles, un stratège numérique, qui lui dit que ce plan-là est une relique.
Une relique, carrément?
Oui. Et pour comprendre le portrait global, on va s'appuyer sur l'analyse de l'économiste Michel Kazaka sur les stablecoins et sur un petit extrait audio qui explique un mécanisme un peu fou de duplication de l'argent.
OK. Fait que notre mission, c'est de montrer comment ce débat québécois est en fait un symptôme de force beaucoup plus grande. On va voir que la question, c'est plus juste de choisir entre dollars canadiens ou américains.
C'est ça. C'est de naviguer dans un nouvel univers de stablecoins, de Bitcoin et de ce qu'on appelle la tokenisation.
Bon, on plonge là-dedans. Alors, le point de départ, le livre bleu. La question de base, c'est quelle monnaie pour un Québec souverain? Et là, il y a trois options. Très
20e siècle.
Oui, voilà. La première, ce serait de garder le dollar canadien.
Ce qui serait une indépendance un peu bancale. T'es souverain politiquement, mais économiquement, t'es encore complètement dépendant des décisions d'Ottawa.
Et t'as aucun mot à dire sur les taux d'intérêt.
Zéro. Et surtout, t'as pas de prêteur de dernier recours si jamais il y a une crise financière. C'est quand même un gros risque.
OK. Deuxième option, adopter le dollar américain. Là, j'imagine que c'est encore pire.
Ben oui. Tu passes de la dépendance envers Ottawa à une soumission totale à la Réserve fédérale américaine.
Dont les décisions sont prises pour l'économie des États-Unis, pas celle du Québec.
Exactement. Le document l'admet lui-même. L'acceptabilité sociale serait quasi nulle.
Et la troisième, la voie ambitieuse. Créer une monnaie québécoise de A à Z.
C'est le grand rêve. Mais le chemin est plein d'embûches, tu sais. Faut bâtir une banque centrale, accumuler des réserves énormes de devises.
Et convaincre tout le monde que ta nouvelle monnaie vaut quelque chose.
Voilà. C'est un pari risqué. En gros, ce sont les options que n'importe quelle nouvelle nation aurait regardées il y a 30 ans. C'est très orthodoxe.
Et c'est là qu'arrive la critique de Guillaume Desilles.
Et lui, il ne mange pas ses mots. Pour Desilles, c'est un plan de 1998 pour le monde de 2025. Un monde qui n'existe plus.
C'est direct comme critique. Qu'est-ce qu'il leur reproche, au fond? Que les scénarios sont naïfs?
Complètement. Il démolit chaque option une par une. Gardez le dollar canadien. Il dit que c'est illusoire de penser qu'Ottawa va partager son pouvoir monétaire.
Jamais.
Adopter le dollar américain. Il rappelle que c'est une arme géopolitique. Les États-Unis n'ont aucun intérêt à partager ça.
Et créer une nouvelle monnaie?
Il dit que d'espérer que les marchés auront confiance, c'est de la pensée magique.
C'est le dilemme de l'œuf ou la poule, non? Pour que ta monnaie soit forte, il faut la confiance, mais pour avoir la confiance, il faut déjà des réserves massives.
C'est exactement ça. Diel cite les grises au Mexique, en Thaïlande, en Argentine. Ces pays-là ont appris à la dure que la confiance, ça se bâtit pas sur des souhaits, mais sur des réserves colossales.
OK. Mais il dit que le pire, c'est pas ça.
Non. Le pire, ce sont les angles morts. Le plan, selon lui, ignore trois révolutions qui sont déjà en marche.
Ah oui. Et c'est quoi ces angles morts?
Le premier, les stablecoins. Un marché de plus de 300 milliards de dollars. Il appelle ça les nouveaux rails de paiement mondiaux.
Eh, aux États-Unis, maintenant, c'est encadré par une loi, le Genius Act. Ce n'est plus le Far West.
Pantoute. C'est légitimé, intégré dans la grande finance. Deuxième angle mort, le Bitcoin.
L'or numérique?
Oui, un actif de réserve qui n'appartient à aucun État. Il souligne que des fonds souverains, comme au Luxembourg, commencent à y toucher. Et surtout, il estime qu'il y a déjà plus de 1,5 million de Québécois qui en possèdent.
Et ça, c'est complètement absent du document?
Complètement. C'est une réalité économique qui est ignorée. Et le troisième angle mort, c'est la tokenisation.
Un mot un peu technique. Et c'est un simplifié. C'est l'idée de prendre un actif, genre une obligation d'État.
Ou même un immeuble.
Et de créer son jumeau numérique sur une blockchain, ce qui le rend super facile à échanger 24/7.
C'est ça?
C'est une excellente analogie. Et le FMI, les grandes banques, tout le monde travaille là-dessus. Fait que la critique de Desi, c'est que le PQ propose un plan qui ignore les rails sur lesquels le monde est en train de se bâtir. Et ça nous amène directement à ces fameux « stablecoins ». L'analyse de l'économiste Michel Kazaka là-dessus est assez terrifiante.
C'est le moins qu'on puisse dire. Il dit que ces jetons, adossés au dollar américain, sont loin d'être neutres.
Qu'est-ce qu'ils sont, alors?
Selon lui, c'est devenu un gigantesque mécanisme pour exporter la dette américaine.
OK, comment ça marche?
C'est simple. Tu donnes 100 000 $ réels à, disons, JP Morgan. En échange, il te crédite 100 000 stablecoins dans ton portefeuille numérique.
D'accord, mais mon 100 000 $ réels, la banque ne le garde pas dans un coffre?
Ben non. Elle le prend et l'investit. Et elle l'investit principalement dans des bons du Trésor américain, ce qui lui rapporte des intérêts.
Un modèle d'affaires déjà très payant pour elle.
Extrêmement. Mais c'est là que la magie noire commence. C'est ce que notre extrait audio appelle la duplication de l'argent.
OK, décomposons ça. Étape 1. La banque prend mes 100 000 $ et achète des bons du Trésor. Le gouvernement américain reçoit donc 100 000 $
C'est ça. Le gouvernement peut dépenser cet argent.
Étape 2. Moi, avec mes 100 000 stablecoins, je peux aussi les investir, par exemple, dans un son de bons du Trésor.
Tokenisé.
Et voilà. Le dépôt initial de 100 000 $ a permis de financer 200 000 $ de dette gouvernementale.
Attends une minute. Si je comprends bien, le même 100 000 $ initial sert à acheter de la dette américaine deux fois.
C'est un tour de passe-passe incroyable, mais oui, c'est le principe de la double dépense.
C'est comme si je déposais un lingot d'or à la banque le prête au gouvernement, mais en même temps, j'ai un reçu en papier qui me permet de dépenser la valeur de ce même lingot ailleurs.
C'est l'analogie parfaite. Le même dollar est dépensé en même temps par deux entités différentes. Et ça, Kazaka dit que c'est...
Un puissant générateur d'inflation cachée. On crée de la monnaie à partir d'une dette, il estime que ça pourrait ajouter entre 3 et 6 % d'inflation par an. Il appelle ça une bombe à retardement.
Et ce système est maintenant légalisé par des lois comme le Genius Act. C'est fou!
C'est comme si le gouvernement américain avait compris que c'était un outil géopolitique incroyable pour forcer le monde à financer son déficit. C'est un impôt mondial déguisé.
Ce qui nous ramène au Québec, si les vieux modèles sont dépassés et que les nouveaux rails financiers créent une autre forme de dépendance, on est coincé.
C'est là que Guillaume Desiel propose son scénario 4, une architecture monétaire hybride pour le 21e siècle.
OK, allons-y. Le premier pilier de ce scénario?
Ce serait de créer une monnaie québécoise, mais de la baser sur un panier d'actifs diversifiés. Un mélange de dollars canadiens, d'euros, peut-être d'autres choses.
Pour ne pas être à la merci d'une seule banque centrale étrangère.
Ça diversifie le risque.
Exact.
Deuxième pilier, et c'est le plus important. Le Québec créerait son propre stablecoin réglementé, un dollar numérique québécois.
Et ce jeton serait adossé à des actifs locaux.
Oui, comme des obligations du gouvernement du Québec. L'idée, c'est qu'au lieu d'emprunter les autoroutes financières américaines, on construirait nos propres autoroutes numériques.
Et on garderait le capital et le contrôle ici. Au lieu de financer Washington, on financerait nos projets.
C'est exactement ça. Et le troisième pilier, c'est la réserve stratégique.
C'est-à-dire?
Pour renforcer la résilience du système, la nouvelle Banque centrale du Québec inclurait dans ses réserves une petite part d'un actif non souverain, comme le Bitcoin.
Un actif anti-fragile, comme il dit. Une sorte d'assurance contre les chaos du système traditionnel.
C'est une bonne façon de le voir. Et cette idée, elle peut paraître radicale, mais elle fait écho à d'autres propositions. Michel Kazaka, le même économiste, a fait une étude pour la France.
Ah oui?
Il a montré qu'un plan d'achat modeste de Bitcoin par l'État français sur 25 ans pourrait potentiellement générer assez de gains pour rembourser l'entièreté de la dette publique française.
C'est une idée vertigineuse. Ça montre à quel point les nouvelles règles du jeu sont différentes. Fait que, si on résume, c'est incroyable. On est parti d'un document politique québécois qui posait des questions du siècle passé.
Et on a découvert un système financier mondial où l'argent est littéralement dupliqué pour financer une superpuissance, créant un risque d'inflation pour tout le monde.
La conclusion, donc, c'est que la souveraineté monétaire, ça a complètement changé de sens.
Absolument. Le débat, c'est plus de savoir quel drapeau flotte sur la banque centrale. La vraie souveraineté, aujourd'hui, c'est la maîtrise des infrastructures numériques et la diversification des réserves.
Ignorer ça, c'est construire une indépendance qui reste au fond dépendante.
Exactement.
Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question provocatrice de Guillaume Desiel. Il affirme qu'au 21e siècle, il est peut-être aussi vital de séparer l'État et la monnaie.
Qu'il a été de séparer l'Église et l'État.
C'est une grosse affirmation.
Dans un monde où les gouvernements et les grandes entreprises créent de nouvelles formes de monnaie, dette numérique, la question devient fondamentale. Qu'est-ce que la souveraineté financière veut vraiment dire? pour une personne ou pour une nation, quand la définition même de l'argent est en pleine redéfinition?
C'est la question qu'il faut se poser.